Michel Guillaume, Saint-Germain, Association Saint-Germain-en-Train, écrit un cycle de mérite ce jour-là. Avec mon collègue Alain Cassin.
Bonjour, Sylvain Marcy pour le collectif des usagers de la ville de Clermont-Volvic. Bonjour, Pascal Mercadier, France Nature Environnement.
Bonjour, Kevin Mercier, vice-président de l'association Adélie Palier, ville de Verre par Moulin Barret.
Bonjour à tous, Julien Vanier, membre de l'association Adélie Palier et utilisateur extrêmement régulier des TER, surtout sur la partie Auvergne.
Bonjour, Sabine Vras, secrétaire général Objectif Capital et Michel.
Bonjour, Daniela Texera pour Objectif Capital.
Bonjour, Daniel Coffin, Codérail Montluçon et Didier Descoux, Codérail Montluçon.
Bonjour, Karine Chani, responsable territorial des Verts pour la partie sud-ouverte.
Marc Boutroise, collectif des usagers du Haut-Allier.
Karine Legrand de l'association Le Train 63-42-69.
Jean-François Martin, membre de l'association du train entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne.
Bonjour, je suis Camille Palin, directrice des gardes réales, je vous appelle. Bonjour, Sébastien Vier, TV Robert Bonalp, et je suis directeur adjoint marketing et relations clients.
Bonjour, Daniel Besserre, SNCF Réseau Verne Rhône-Alpes.
Bonjour, Michel Abodio.
Merci. Si vous voulez vous présenter également.
Bonjour, Catherine Marquet, au cadre du journal de transport.
Merci.
C'est les bosses sur l'émission contre affaires au bien.
Merci à tous pour votre présence. Donc là, on est en train de régler le U à l'écran, le vrai de ce qui va défiler dans quelques instants. Donc on a proposé d'articuler, on va dire, la journée de la matinée d'aujourd'hui autour de plusieurs thèmes. Le bilan d'hiver 2023 et les tendances au premier semestre 2024. Le second thème sur autour du matériel roulant et des installations de maintenance. Ensuite, le service annuel TRR 2025, qui est toujours un moment à partager avec vous pour voir les travaux programmés en 2024-2025, les évolutions de services programmés, et les transports interurbains et scolaires, et puis les perspectives, et puis un tour de l'actualité et des autres actions régionales. Voilà un petit peu le programme. Donc, merci à la technique aussi pour avoir pu résoudre le problème. Du coup, on va pouvoir continuer et commencer avec le bilan TER 2023 et le bilan TER 2024. Donc, je vais donner la parole à la SNCF.
Merci. Donc, un petit point sur la fréquentation des TER en Auvergne-Rhône-Alpes en 2023 et sur le début d'année 2024. Donc l'année 2023, on a connu une croissance de la fréquentation des trains de 4,3% par rapport à 2022. Si on se replace par rapport à un horizon un peu plus lointain, c'est plus 22% par rapport à 2019 sur notre territoire. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ces résultats. Tout d'abord, l'intérêt économique à la fois des abonnements pour les déplacements du quotidien, mais aussi les différents tarifs et les promotions que la région a souhaité mettre en place pour favoriser les déplacements des différents publics. On a aussi la chance d'être dans une région qui, sur le plan touristique, offre de nombreux avantages et atouts. Et très clairement, on voit tout l'impact du tourisme, y compris sur la fréquentation des TER. Et puis, c'est quelque chose qui est vraiment, en tout cas, une prise de conscience des enjeux climatiques et de la nécessité de réduire les émissions de CO2, qui contribuent également à l'attractivité de TER. Alors, sur ce début d'année 2024, on est toujours en croissance de trafic. Par rapport au premier trimestre de l'année 2023, il y a plus 16% en 2024. Alors, vous vous souvenez que le premier trimestre 2023 était marqué, entre autres, par des mouvements sociaux interprofessionnels dans le cadre de la réforme des retraites, ce qui avait un petit peu perturbé le premier trimestre. Néanmoins, il y a une croissance non négligeable. Si on fait un focus maintenant sur à la fois les abonnés et les occasionnels, en 2023, sur le total de la fréquentation de nos trains, il y avait 44% de trafic qui était lié à des abonnés, à des voyageurs fréquents. Ce sont eux d'ailleurs qui ont le plus progressé par rapport à 2022, il y a une progression de 5,2%. Cette hausse de trafic, alors on se souvient en 2022, ce sont d'abord les occasionnels qui sont revenus. Les abonnés sont revenus un petit peu plus tardivement sur l'année 2022, c'était plutôt à partir du mois de septembre 2022. Par contre, en 2023, dès le début de l'année, on a eu un rythme assez soutenu d'abonnés. Vous voyez que, et c'est toujours à la période de l'automne où on a le plus d'abonnés, on avait vendu 66 000 abonnements annuels en fin d'année, mensuels, et 11 000 abonnements annuels. Au premier trimestre, le poids des abonnés dans le trafic total au premier trimestre 2024 diminue un petit peu. On a eu plus d'occasionnels, ce qui fait que les abonnés représentent 35%. Alors c'est, là aussi, c'est un peu plus fluctuant. Et au mois de mars-avril, on avait environ 64 000 abonnés mensuels illico et plus de 13 000 abonnés annuels, ce qui montre bien cette tendance et la dynamique qu'on avait constatée précédemment. Pour ce qui est des occasionnels, c'est le corollaire, c'est en 2023, on a dit 44% d'abonnés, donc 56% de voyageurs occasionnels. La croissance est un petit peu moins élevée, mais par contre, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc la croissance était de 5,5% pour ces voyageurs occasionnels par rapport à l'année 2022. On s'est parlé des promotions il y a quelques instants. On peut se confirmer avec les résultats commerciaux inédits qu'on a eus, que les promotions, que ce soit les cartes de réduction régionales, mises en œuvre par le conseil régional, on a vendu plus de 170 000, il s'agit des cartes Illico Liberté et Illico Liberté Jeune, c'est un record. De même que durant l'été, la région a mis en place des tarifs pour favoriser l'usage du TER, ce sont donc les petits prix et le tarif Illico Promo Vacances. Et sur chaque jour de l'été, il y a eu 14 000 voyages en moyenne réalisés avec ces tarifs promotionnels. Donc on voit bien que les incitations mises en place par la région pour favoriser l'usage des TER portent leurs fruits. Et sur le premier trimestre 2024, le trafic occasionnel est en progression, progresse de 21%.
Merci Sébastien pour ces grandes tendances. Est-ce que peut-être il y a déjà des questions sur ces tendances? Sinon, on va passer maintenant aux indicateurs de performance de la nouvelle convention région SNCF. Pour vous présenter un petit peu les nouveautés du contrat PATS cette année 2024. Donc, on a de nouveaux indicateurs qui permettent de mesurer le taux de disponibilité des matériels roulants, ce qui permet d'avoir l'indicateur de la performance du PATS avec un dispositif de bonus-malus à la SNCF, suivant le respect de l'objectif. Alors le taux de disponibilité, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de rames et locomotives qui sont mises à la disposition du service commercial par rapport à l'ensemble du parc TER Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est un ratio qui permet d'avoir de majorer les emprunts et d'innover des prêts de matériel roulant qui permettent vraiment de voir ce qui sert vraiment au service au jour le jour. Alors il est mesuré à 6h du lundi au vendredi. Hors vacances scolaires, c'est pourquoi c'est ça, c'est parce que c'est juste avant la pointe. Donc, ça nous permet d'avoir une bonne visibilité de ce qui est mis à disposition du service TER par rapport au parc TER. Alors l'objectif chiffré, pour le définir en 2024, on a regardé un petit peu dans le rétroviseur ce que ça donnait pour 2023, et la SNCF nous a communiqué le chiffre de 80,3%, qui s'explique par différents faits marquants en 2023, le mouvement social qui évoquait aussi sur la réforme des retraites, les travaux d'entrée de voies à Vénissieux, le démarrage de la chaîne des opérations de ville, les grosses opérations de maintenance, le déverminage de VMH des périodes d'essai, on va dire, suite à la maintenance lourde des nouvelles opérations sur les 23-500, et puis des chaînes de reprise des bougies, des ATP de bougies, des 24-500. Donc, un taux de disponibilité de 80,3% en 2023, qu'on souhaite, pour 2024, pouvoir améliorer au taux de 83%, si on accepte les indisponibilités liées aux gros programmes industriels et aux immobilisations de durée. Puisque c'est des rames, on sait qu'on ne va pas pouvoir les mettre en service sur l'ensemble de l'année. Et donc on a prévu aussi des matériels supplémentaires pour faire face à ces coûts de mobilisation. Alors si on inclut en revanche les gros programmes industriels et les immobilisations de durée, ainsi que les prêts en train de matériel sur la période, là le taux de disponibilité est ramené à 79,5% pour prendre en compte cette réalité aussi des programmes industriels. Autre indicateur qui est innovant dans la nouvelle convention, c'est la non-adéquation à l'emploi, qui est aussi soumis à bonus-malus. Alors, la non-adéquation à l'emploi ou l'adéquation à l'emploi permet de vérifier que les capacités qui sont offertes au nombre de places des trains puissent répondre aux fréquentations attendues. Donc, on a pris l'hypothèse maximale des fréquentations attendues pour ne pas sous-estimer ce point. Et on a pris sur la base d'un emploi total qui inclut la notion de confort de coût. C'est une nouveauté aussi par rapport à la convention antérieure. Jusque-là, on prenait les normes constructeurs. Et là, maintenant, on considère qu'il y a une notion de qualité de confort de coût. On va considérer qu'il y a personne au mètre carré, par exemple, ça paraît trop serré dans les trains. Donc, on prend une offre qui est basée sur le nombre de places assises, puis 75% du nombre de places debout sur la norme constructeur ou l'offre périurbaine. L'offre périurbaine, finalement, c'est distance assez courte. Et puis pour l'offre haute distance, là on est sur une qualité de confort de route qui est accentuée, puisqu'on est sur des trajets plus longs. Donc là on part sur le nombre de places assises et avec 25% du nombre de places debout, toujours suivant la même constructeur. Donc malgré une année 2024 plus difficile que 2023.
You are in the meeting now. Recording in progress.
Donc, avec deux fois plus de RAM immobilisée pour le programme industriel de Voltaire, c'est-à-dire les opérations de ville. Donc, on est avec la mise à circulation de 10 RAM Régio 2N en septembre 2024, qui vont intervenir ces prochains mois. Ça permettra de remettre en circulation 49 trains par semaine, de compenser l'impact du programme industriel et d'améliorer l'emploi global. Donc, compte tenu de cette nouvelle donne, on a fixé l'objectif de l'adéquation à l'emploi à 92,4% en 2024, contre 92% en 2023. Je souhaite apporter une amélioration avec ces nouvelles rames qui vont arriver à 2027. Alors, voilà, je vous ai présenté deux nouveaux indicateurs. Il reste, bien sûr, les indicateurs plus traditionnels qu'on va présenter tout de suite. Donc, les indicateurs de qualité pour la non-réalisation de l'offre pour les trains ne circulent pas. Donc là, c'est calculé, donc, des pénalités qui sont calculées en fonction du nombre de trains kilomètres annulé, en fonction aussi du délai entre l'annonce de l'annulation et la date prévue de départ, plus le délai court et plus la pénalité forte. Et puis aussi en fonction de la période prévue de circulation du train annulé, plus le délai en période de autre indicateur de qualité traditionnel, c'est la mesure et la ponctualité, avec un système de bonus-malus suivant l'arrivée selon la mesure de l'actualité de fin de parcours, c'est-à-dire mesure la ponctualité à 5 minutes 59 à l'arrivée au terme du bus. Des bonus-malus sont aussi envisagés pour les lignes stratégiques. C'est plus nouveau par rapport aux lignes Lyon-Saint-Etienne, Grenoble, Lyon-Chambéry, Lyon-Saint-André-Pierre, lignes du Lyon-Express, ainsi que des bonus pour les lignes sensibles Lyon-Clermont-Ferrand, aujourd'hui Lyon-Genève et Lyon-Valence. Donc sur la réalisation de l'offre, on va passer aux résultats maintenant, donc après avoir présenté les objectifs et les indicateurs, et je vais laisser la parole à la SNCF pour présenter les résultats de l'année 2023 et du début 2024.
Oui, donc en matière de non-réalisation de l'offre, vous voyez que sur l'année 2023, le jour J, on a supprimé un peu plus de 4100 trains, ce qui représente un peu moins de 2% en fait de l'offre. Dit autrement, on a réalisé 98% des trains qui étaient prévus circuler un jour J. Ce taux, vous voyez sur les courbes, il est un petit peu, il fluctue en fonction des périodes de l'année. La courbe bleue, elle représente la réalisation de l'offre sur chacun des mois, et la courbe rouge, c'est la réalisation de l'offre, mais avec les leviers côté TER, puisque parfois on ne peut pas réaliser les trains parce que les voies ne permettent plus la circulation des trains. C'est pas qu'on n'avait pas le matériel, c'est pas qu'on n'avait pas le personnel pour pouvoir assurer la circulation des trains, mais en fait, il peut y avoir des incidents, et on en a eu en particulier sur la fin d'année 2023. Il y a eu plusieurs, en raison des intempéries, plusieurs éboulements. On a perdu, il y a eu des terres aussi qui sont tombés, effondrés sur la route. On a un petit peu d'écho, mais je vais essayer de parler fort. Il y avait eu sur la partie dans les Alpes l'effondrement d'une falaise, vous l'avez probablement vu, du côté entre Chambéry et Modane. Donc, au global, on reste sur des taux de réalisation d'offres le jour J qui sont relativement élevés. On est à peu près à 98% également sur le début d'année 2024. Et par contre, les trains non réalisés pour cause SNCF Voyageurs TER, ils sont en diminution sur ce début d'année 2024. C'est environ 0,8% des trains qui n'ont pas été réalisés de SNCF Voyageurs pour différentes raisons, soit pour des problématiques de matériel roulant, c'est essentiellement le cas, soit parfois pour des problématiques en lien avec la réutilisation de personnel. On a voulu faire un focus sur la ligne Lyon-Clermont-Clermont-Lyon et comparer les trains supprimés le jour J au premier trimestre 2023. Donc, vous voyez sur le graphique de gauche, il y a eu 11 trains au premier trimestre 2023. Il y en a eu un petit peu plus, on est passé à 16 trains au premier trimestre 2024 qui ont été supprimés sur cette ligne Clermont-Lyon. Et d'ailleurs, sur les 11 trains en 2023, il y en avait 5 qui étaient du fait de SNCF Voyageurs avec des problématiques de matériel roulant. Au premier trimestre 2024, il y a toujours 5 trains supprimés pour cause TER avec des sujets de réutilisation et d'enchaînement dans nos personnels roulants. Sur la partie de droite, c'est en pourcentage de l'offre totale. Vous voyez que le premier trimestre 2023 sur cette ligne, il y a eu 1,1% de trains supprimés, dont 0,5% pour cause TER. Et en 2024, on est à 1,2% de l'offre totale qui a été supprimée le jour J entre Clermont et Lyon, dont 0,4% pour cause TER. J'enchaîne sur la ponctualité des trains. En 2023, la ponctualité qui cause de l'ensemble des TER urbains Rhône-Alpes a été de 89,5%. Donc elle est en légère dégradation par rapport à la ponctualité de 2022. Alors, on a en fonction des périodes de l'année sur 2023 différentes causes qui génèrent des retards. On l'a évoqué sur le premier trimestre, les mouvements sociaux. Au second trimestre, ce sont essentiellement des causes externes et parfois en lien avec l'infrastructure qui ont causé des difficultés. Au troisième trimestre, on a eu sur l'été 2023 des périodes de forte chaleur qui ont des impacts à la fois sur l'infrastructure et sur le matériel roulant. On l'a dit aussi, en 2023, la fréquentation des TER est en forte hausse, en particulier durant la période estivale, compte tenu de l'attrait touristique de la région. Et quand on a aussi plus de voyageurs, parfois les opérations de départ, le temps que tout le monde monte et descend des trains, prennent un peu plus de temps, ce qui peut générer des retards. Et enfin, au dernier trimestre de l'année 2023, ce sont plusieurs événements externes qui ont eu un impact sur la ponctualité des trains. En particulier, on a eu de nombreux chocs avec des arbres, des animaux ou parfois des véhicules et des passages à niveau, ce qui a eu des conséquences en matière de disponibilité des matériels, on l'a évoqué tout à l'heure. On a eu aussi, sur certains secteurs, je l'évoquais, des intempéries qui ont entraîné des coulées de boue. Parfois, la voie a été arrachée, donc il a fallu la refaire. Ainsi qu'un événement du côté de la Tour du Pin, où il y a un bâtiment voyageur, donc c'est sur à l'est de Lyon, et ça concerne plusieurs lignes importantes de la région, puisque passent par là les Lyon-Grenoble, les Lyon-Chambéry, notamment, et il y a eu des impacts très importants, puisque les trains ont dû être ralentis à cause du risque d'effondrement d'un bâtiment qui est situé à proximité de la gare, qui appartient à un particulier, et ça a eu des impacts sur la ponctualité. Sur le début d'année 2024, la ponctualité de l'ensemble des TER est de 90,7%, et parmi cette ponctualité, quand on la redresse des causes TER, les causes TER, dans la non-ponctualité, c'est 3,2%. C'est en diminution par rapport à ce que au premier trimestre de l'année précédente, en légère diminution les causes TER. Et là aussi, on a eu des chocs matériels en début d'année, et à nouveau un glissement de terrain qui a également eu des impacts sur le premier trimestre, en particulier du côté de Grenoble. Maintenant, si on regarde ce qui se passe sur Clermont-Lyon, là, sur Clermont-Lyon, c'est une ligne où la ponctualité est plus faible, vous voyez, que la moyenne régionale, puisqu'en 2023, là où on avait en moyenne régionale 89,5% de ponctualité sur Clermont-Lyon, on est à 82,9%, donc à presque 7 points de moins que le reste du réseau régional. C'est assez impactant et structurant en toute cause. Quand on regarde les causes imputables à TER, pour essayer d'isoler toutes les causes externes, cette ponctualité remonte à 88%, même si je redis, celle qui est vécue par vous, voyageurs, c'est le 82,9%. Et elle s'améliore, cette ponctualité, sur le début de l'année. L'année 2024, puisque vous voyez qu'on est à plus de 87% de ponctualité, dont 4,5% de non-ponctualité pour cause de roulement de SNCF voyageurs. Et ce sont essentiellement des problématiques sur les matériels roulants, problématiques de moteur, et parfois, quand un train arrive. Soit à Clermont, soit à Lyon en retard, il repart dans l'autre sens aussi en retard. Donc voilà, ça génère des contraintes.
Merci Sébastien. Donc après le volet ponctualité, je vais dire sur le volet exploitant, on va passer maintenant au volet ponctualité, enfin, de manière générale à la convention de performance avec SNCF Réseau, entre SNCF Réseau et la région, et on va laisser la parole à SNCF Réseau.
Alors, la convention de performance qui a été signée pour 2022 et 2023, entre le conseil régional et SNCF Réseau, porte sur deux indicateurs chiffrés qui sont la part des causes SNCF Réseau sur la ponctualité terminus, en considérant un indicateur global sur l'ensemble de la région, et puis vous l'aurez sur la deuxième diapo après, un indicateur sur la part des causes SNCF Réseau sur les trains supprimés. Voilà, donc on retrouve les deux systèmes classiques de ponctualité et de réalisation de l'offre. L'année 2023 a été terminée par un malus pour SNCF Réseau, parce qu'on n'a pas été à l'objectif sur les deux indicateurs. Pour plusieurs événements qui sont présentés sur la partie droite de la diapositive et qui ont été exposés par Sébastien, on a également été touché par les grèves du premier semestre. On a aussi subi les aléas de climatique, avec les orages, le printemps de l'année dernière, des pluies, où certaines ont complètement emporté la voie, et en tout cas la plateforme sous moi, je pense à ce qui s'est passé en parenthèse. Alors même si ces événements-là restent des événements externes à SNCF Réseau, la remise en état de l'infrastructure mobilise des moyens, mobilise des ressources qui font qu'on est obligé de retoucher le programme de travaux, on est plus tendu sur le programme de travaux, et du coup on est moins performant sur ce programme de travaux. Et donc ce sont effectivement les travaux aussi, on a un volume de travaux qui va croissant sur le réseau, hein, avec l'État qui investit de plus en plus, puisqu'on doit passer de 2,8 à 3,8 milliards d'euros de régénération sur le réseau, et sur une montée en charge sur ce travail, et 500 millions d'euros annuels également pour la modernisation du réseau. Voilà, ces travaux donc mettent en tension nos ressources, celles de nos partenaires industriels. Et donc, voilà, sur la performance travaux, on va encore se recaler, parce qu'on a eu des difficultés sur 2023. Sur les trains supprimés, alors oui, et donc, je termine juste sur la ponctu terminus, donc l'année 2024 démarre mieux, mais on sait que nos débuts d'année sont en général plus sereins, et les difficultés viennent surtout sur le second semestre. Sur les trains supprimés, sur les trains supprimés, donc on avait plein d'objectifs, c'est un objectif qui est nouveau quoi, c'est cette raison, on s'intéresse aux trains supprimés, mais on était moins on a moins construit notre travail sur cet item jusqu'à présent. On a eu une année 2023 qui était particulièrement difficile parce qu'on n'a jamais été à l'objectif. On voit que sur 2024 on démarre mieux, mais on est pas loin d'objectif. Voilà, on reste sur des pourcentages qui restent quand même assez mesurés puisqu'on a fini l'année sur 0,47% par SNCF Réseau dans les trains supprimés.
Le cas de la région, donc par rapport à cette dimension, qui nous travaillons en son renouvellement de l'avenir, comme l'a dit Daniel, on a vu et cette somme-là, en fait, on travaille avec les autres pour la flécher sur des interventions sur le réseau, des petites interventions, des remplacements anticipés de composants, du courage, ce genre d'action. C'est plus sur le principe. Ça n'a pas révolutionné la situation, mais ça permet de donner des actions ponctuelles. Et on a essayé de tous ces matériaux pour gagner de l'argent sur ces bonus. Après, on vous donne la qualité, la ponctualité sur les lignes. Donc, ça se présente de manière un petit peu différente que les années précédentes. Alors, sur le comité, c'est un petit peu moins pris, mais vous avez plein de différences. C'est la façon dont les statistiques dans la nouvelle convention sont calculées. On a 73 lignes de ce qu'on appelle des lignes de service. On a renouvelé les trains sur des portefeuilles. Proche des données de la possible de la SNCF des problèmes. Ça a deux conséquences, on a des ouvrages plus fins, et puis on a des trains qui sont diamétralisés, donc les chiffres de vapeur qui est vraiment évolué. On a la ponctualité micro-terminus. On n'a pas les trains qui font aujourd'hui 1 million, la ponctualité de mesurer micro-terminus. C'est une question de simplification. On n'a pas de point intermédiaire. C'est la différence par rapport au diagnostic que vous aviez avant. Si on les a mis en voilà, vous avez les différences entre 2023 et 2024. C'est comme vous, finalement, Clermont-Moulin, mais c'est la partie nord. Clermont-Moulin, ok, vous avez un détail, et on a trouvé des noms qui passent.
Merci Eric pour cette précision.
peux vous donner la parole s'il y a des questions sur les questions de ponctualité, de d'offres, de manière générale, passer aux problématiques. Vous voyez une problématique qu'on a en tête avec le matériel, avec la desserte, avec les questions comme ça.
Pour une des semaines, vous m'entendez bien? Allô? Bon. Pour une des semaines, vous savez que les circulations sont coupées 3 mois durant depuis 10 ans maintenant, à cause des travaux. On a demandé à maintes reprises que ces travaux, au moins cette coupure, soit réduite. Et on s'aperçoit qu'en 2024, c'est pas le cas, c'est près de 3 mois et demi, et qu'en 2025, ce sera près de 4 mois. Donc, où est votre parole, et qu'est-ce que vous faites pour réduire les temps d'indisponibilité de la ligne? Merci.
Il y a effectivement cette demande, on l'a bien entendu, à côté de la journée, on la partage avec le groupe, ça renvoie en fait à la coordination des chantiers menés de part et d'autre de la frontière administrative, on va dire. Est-ce que côté SNCF Réseau, est-ce que vous pouvez apporter des éléments de réponse sur quelle mesure vous prenez, sur la coordination et quelles sont vos contraintes qui montrent qu'aujourd'hui, cette période ne serait de pas?
Ouais, alors je vais répondre précisément, je suis désolé parce que j'avais pas la question. Ce que je peux vous dire sur les travaux, c'est en rebond sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a un volume de travaux qui est très important. On fait appel, on externalise, on a beaucoup de ressources qui sont dans le milieu industriel. Et donc la planification des travaux dépend aussi de la disponibilité de ces entreprises, ça dépend aussi de la disponibilité des matières, parce que ces derniers temps, on a quand même beaucoup de tensions sur les approvisionnements de matières, hein, je pense. Notamment les constituants de la voie, hein, qui traversent les rails, le ballast. Voilà, on est à la croisée de ces contraintes-là, mais je ne peux pas vous dire plus précisément pourquoi on ne fait pas le tour sur les chantiers, sur le CEMOL. Ce qui est important, en revanche, c'est qu'on fasse les travaux, parce que c'est ce qui permet de pérenniser l'infrastructure. Voilà, et le moment de planification de travaux, on a des concertations avec l'ensemble des entreprises ferroviaires, hein, pour choisir le moment. Alors, pas choisir à la carte, évidemment, parce qu'il faut qu'on fasse faut qu'on planifie les travaux en fonction de la charge de débit. On essaie de trouver le moment qui est le moins pénalisant, mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où on interrompt les circulations pour faire les travaux, il n'y a pas de temps d'ici.
D'autres questions?
Oui, sur la vue précédente, concernant la réglementité, je n'ai pas vu que la réglementité a été mise en place. La ligne existe toujours. Vous avez les chiffres? Ah, les chiffres.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Alors en fait, moi j'aurais deux questions. Donc tout d'abord, concernant ce dont vous nous parliez tout à l'heure, pour des bonus-malus par rapport à l'emport dans les trains, j'aurais juste voulu savoir pourquoi plusieurs trains ayant été signalés à plusieurs reprises comme ayant des problèmes de capacité, pourquoi aucune amélioration n'a été constatée depuis, particulièrement le train 874-2010 Vic-le-Comte-Moulins le vendredi soir, qui part de Clermont à 15h38. Et j'aurais aussi une petite question concernant les résultats du Clermont-Lyon dont on nous a fait part tout à l'heure. Parce que certes, vous présentez un bilan plutôt satisfaisant au niveau du nombre de trains supprimés ou non. Par contre, pour nuancer un peu tout ça, j'aurais aimé aussi qu'on nous donne un bilan peut-être un peu plus détaillé sur toutes les problématiques qui ont été rencontrées ces derniers temps, à savoir déjà le problème de signalisation récurrent entre Tarare et Roanne. Également les nombreux détournements qui ont eu lieu par Ghana ou par Saint-Étienne, et également ceux qui se reproduisent à très forte fréquence ces derniers temps, les trains de fret en panne, particulièrement dans la rampe de Randa. Voilà, donc j'aurais aimé avoir un bilan par rapport à toutes ces modifications et tous ces incidents divers. Voilà, merci.
Alors, il y a deux questions passées. Première question, peut-être sur l'emport. Donc, on a côté région comme côté SNCF maintenant un outil partagé avec la nouvelle convention qui permet de tracer train par train, j'allais dire, période par période, notamment en train de vous évoquer ce plein. Donc, ça nous permet, nous, côté région, d'avoir un niveau de finesse qui n'existait pas encore jusqu'ici, partage maintenant avec SNCF. Donc, on est sur un schéma d'acteur qui permet aussi de repérer les trains qui étaient en priorité. Donc, parce qu'il y a de transition, on va traiter vraiment les priorités du réseau. Sur ce train-là, peut-être que la SNCF aura aussi un élément de réponse. Puis sur la question de la deuxième question qui relève des questions de signalisation fret, je pense que ça peut être aussi que la SNCF apporte les éléments.
Alors oui, pour compléter, effectivement, il y a des trains qui restent en sous-capacité aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'on n'offre pas assez de place par rapport à la réalité de la fréquentation. Ces trains, on travaille, la région l'a dit, à essayer de résoudre les problèmes. C'est extrêmement compliqué, on y reviendra tout à l'heure dans la présentation, puisque ça a été un petit peu évoqué, hein, il y a un programme qui vise à moderniser les rames, et donc quand les rames sont arrêtées pour être modernisées, eh bien, elles sortent du parc disponible pour pouvoir assurer les trains. Ça, c'est le premier sujet. Le vendredi après-midi, hein, comme d'ailleurs on le fait en pointe, on essaye de sortir un maximum de matériel roulant pour le service voyageur. Ce qui reste compliqué, c'est que ben, on a un parc qui est donné. J'ai évoqué tout à l'heure des hausses de fréquentation. Donc avec un parc qui est connu, voire qui est en léger retrait même par rapport à 2023, du fait des opérations de modernisation industrielle et puis une hausse de la fréquentation, on va pas se mentir, on est sur une période où c'est pas simple, l'équation n'est pas simple à résoudre. Donc on fait nos meilleurs efforts pour essayer d'allouer au mieux le parc, mais il y a certaines périodes de la semaine, et c'est particulièrement vrai en fin de semaine ou juste avant les week-ends ou le lundi matin, où la demande est très forte, c'est-à-dire on a le plus de trains qui roulent. On n'a pas tout à fait le même nombre de trains chaque jour de la semaine. C'est là où on a le plus de trains et avec un parc déterminé. Donc on essaie d'allouer au mieux, mais on a encore des trains sous capacitaires et qui vont le rester encore pendant plusieurs semaines. On verra tout à l'heure sur les livraisons de matériel roulant, ce qu'on va pouvoir faire par décalage. Peut-être ça apportera des éléments plus précis, je ne vais pas les détailler. Pas perturber la présentation, on aura l'occasion d'y revenir.
Alors, un petit commentaire par rapport à votre question. Le système d'emport, le système d'observation que vous avez mis en point, les indicateurs que vous avez mis, comme l'a dit Emmanuel, ils sont nouveaux. Ce système-là, il faut qu'on le monte en termes de. Notamment, je n'arrête pas de parler de travail de. Parce que le numéro 870, c'est 0.10. Et je suis déjà regardé dans le système, le problème sous l'âme, là, je l'ai sous les yeux. Il n'y a pas de problème. Le système me dit qu'il n'y a pas de problème. Alors, ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'on compare en fait, une estimation de fréquentation attendue, SNCF produit chaque jour de la semaine, il s'agit d'une fréquentation attendue de la part des systèmes de l'UPR, du son extractif. Il dit, voilà, on attend au maximum sur ce train-là, peut-être chaque. Et on compare par rapport à la composition qu'elle a produite le jour de l'année pour l'instant. Et après, on utilise, vous l'avez évoqué, on compare entre eux dans les détails, on de normes de service, c'est-à-dire que avoir mis de normes de confort, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, donc, pourquoi je vous dis tout ça, c'est que le système est en train de le suivre. On a moins de références que pour la fonctionnalité. Et ça vous intéresse que vous ne fassiez pas de qu'un prêt chargé, vous avez signé qu'un prêt chargé, je ne sais pas si vous l'avez fait de la région ou de l'UPR. C'est vrai que nous, on est vraiment demandeurs d'avoir ces informations, ces remontées terrain, parce que c'est pas la justice de la SNCF, c'est que la question de la besoin d'affecter ça des trains n'est pas quelque chose de si trivial que c'est pour la base, et que d'une part technique. Donc c'est intéressant de savoir d'avoir un partage en tout cas des trains qui sont vraiment en difficulté. Voilà. Et moi, dans mon système de mesure, peut-être que je vous dis là, je fais chaud, je vois pas de difficulté. Donc là, il y a un décalage entre ce que vous vivez usagé, ce que vous faites monter, et moi, ce que j'ai dans mon système de transition. Le but, c'est que ça fonctionne sur les autres, pas collectivement, enfin, les autres, ça fonctionne sur les pas, et ça vous intéresse après, et pas si un problème dans la zone, Nous, de notre région, on a besoin de consolider ce système de tout, et ce qui vivait la situation sur le plus âgé, donc il y a probablement de remonter. Après, il y a aussi la logique de discussion et d'objectivation de la situation, parce qu'après, il y a une situation. Merci de votre
intervention. Ça nous aide aussi dans les prospectives avec l'arrivée de nouveaux matériels, notamment au côté Auvergne, avec l'arrivée des réfugiés hydrogènes, on va en parler tout à l'heure. C'est le jeu de cascade qui permet de faire face aux besoins d'emploi, des déductions, dans ces conditions. Donc, suivant le temps dans les prochaines années, ça nous permet de repérer. Déjà, sur la phase diagnostique, de bien repérer les trains qui sont ciblés prioritairement vers l'emploi renforcé, pour qu'on puisse apporter les mesures dans le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, la SNCF affecte les rames au service, et nous, côté région, on finance sur le matériel. On souhaite vraiment qu'on puisse travailler mieux ensemble, et l'emploi pour nous, c'est vraiment un rapprochement entre SNCF et région qui permet, avec cette phase de diagnostic, d'apporter un progrès dans cette nouvelle construction de l'hôtel. Et puis après, trouver les solutions, on a surtout les réponses. Au-delà du diagnostic, c'est les solutions. Voilà.
Justement, concernant ce problème, est-ce que la région envisage la réservation des places comme dans d'autres régions, d'une part des places normales et d'autre part des places pour les vélos sur toutes les lignes?
Sur la réservation des passagers aujourd'hui, c'est pas d'actualité, hein, de faire réserver le TER, hein, ce qui le TER est en mode où on accède facilement. Même si effectivement le sujet pourrait se poser pour des parcours longue distance, parce que voilà, il y a différents types de parcours. On peut avoir des parcours courte distance. C'est vrai que quand on fait 2 heures de train, on pourrait imaginer que ce soit possible d'avoir la garantie d'avoir une place assise. En tout cas, c'est pas des sujets aujourd'hui qui sont dans le spectre d'études. Voilà, la question pourra peut-être se poser ultérieurement. Et concernant les vélos, effectivement, on a un sujet d'import des vélos à bord. Alors, on met en place sur des secteurs particuliers, en l'occurrence la vallée du Rhône, où on est fortement impacté par le trafic cycliste du cyclotourisme lié à la Via Rhônia. On met en place un dispositif de réservation, alors à 0 €, mais il y a effectivement un dispositif de réservation les week-ends. Et c'est fait depuis les week-ends de mai, juin, juillet et août. Voilà, donc ça permet effectivement de mieux répartir l'usage du train pour les cyclotouristes. C'est vraiment dédié aux cyclotouristes et ça ne concerne pas les abonnés, les usagers quotidiens qui montent dans le train avec un vélo.
Juste un petit mot. Est-ce qu'il vous est venu à l'esprit de prévoir à la place de la réservation des rames supplémentaires? Quand je dis rames, ça peut être un wagon à vélo ou n'importe.
Alors sur la vallée du Rhône, toujours, on fait du bâchage hein, de places, de sièges, hein, c'est expérimenté dans d'autres régions, pour pouvoir mieux optimiser l'emplacement des vélos dans le train. Et puis surtout, on met du personnel qui permet de mieux optimiser l'espace, parce qu'en fait, y a des comportements qui font que, par souci, vu le prix des vélos aujourd'hui, les gens ont tendance à rester à proximité de leur vélo et n'utilisent pas assez l'espace. Donc, quand on met ce personnel-là, ça permet de dire aux gens, écoutez, moi, je suis là, je reste là, je surveille les vélos, et allez vous asseoir, et forcément, ça optimise beaucoup plus mon placement. Donc, vous comprenez bien, par contre, ce sont des mécanismes coûteux qu'on peut pas mettre sur tous les trains. Donc, on le fait sur la vallée du Rhône en cofinançant avec la région Sud. Hein, c'est un dispositif cofinancé région Sud, région Haut-Rhin. Voilà, mais on est également, alors il y a tout un travail qui est fait de notre part avec la SNCF, avec toutes les associations cyclotouristes, hein, donc on travaille beaucoup avec les associations, les acteurs du tourisme, et puis bien sûr on est toujours très ouvert et on regarde de près ce qui se passe dans les autres régions, on fait beaucoup de retours d'expérience aussi des dispositifs qui sont menés par les autres régions. Et ce dispositif de réservation aussi, je ne l'ai pas dit, mais on l'étend cet été sur, sur les axes Alpes. Peut-être Sébastien, tu peux redonner les axes.
Oui, donc sur la partie Grenoble-Gap, Romans-Valence-Die, qui vont en lien avec la région sud, ainsi que sur Lyon-Genève, où on a voilà, beaucoup de cyclotouristes, et Lyon-Mâcon-Dijon. Donc on teste, hein, la région vient de le rappeler, c'est vraiment une expérimentation. Ce qui reste compliqué par rapport à ce que vous évoquiez sur le matériel roulant, parce que je sais que certaines régions ont parfois démonté des sièges pour pouvoir prendre plus de vélos. Parfois ça passe, nous on l'a dit à plusieurs reprises, hein, une région très touristique, très fréquentée, et c'est compliqué de démonter des sièges parce que sur certains axes, ben, on a besoin de tous les sièges et parfois il faudrait même plus de sièges. Donc c'est tout cet équilibre à trouver entre l'emport des vélos à bord des trains, donc avec des solutions de réservation. On se le redit, hein, l'emport des vélos à bord des TER, il est aujourd'hui possible, gratuit, dans la limite des places disponibles. Le nombre de places d'emplacement vélo n'est pas illimité. Et on le sait tous ici, hein, il y a une croissance fulgurante de l'usage des vélos. La région vient de le rappeler, certains investissent, y compris dans des vélos électriques qui sont coûteux, et parfois d'ailleurs plus volumineux et plus lourds, hein, ce qui nous pose, certains types de vélos posent des difficultés à bord des trains. Donc on essaie de maintenir l'emport. L'emport des vélos à bord des trains et à bord des cars, je le dis aussi, il est forcément limité. Parce qu'on a parfois, et la région évoquait la vallée du Rhône, on s'est des fois retrouvé sur des trains avec 72 vélos à bord, et 72 vélos, bah, ça passe pas, quoi. Et parfois, ça prenait même la place pour les voyageurs, les BMR ou en situation de handicap. Et on voit bien que sur certains trains très prisés, bah, on n'a pas, enfin, le TER n'est pas dimensionné pour accueillir autant de vélos. Ce qu'on fait avec le système de réservation, on recherche aussi des partenariats avec des loueurs de vélos pour pouvoir essayer d'apporter une solution et de contenter un maximum de personnes. On a aussi conscience, hein, des conflits d'usage parfois dans des trains très fréquentés entre des voyageurs qui veulent monter et parfois il y a beaucoup de vélos sur les plateformes, ça gêne les montées départ, ça crée quelques tensions, donc voilà. On essaie d'apporter de manière pragmatique, il n'y a pas de solution miracle, hein, sur les vélos, on essaie de manière pragmatique d'expérimenter avec la région un maximum de solutions et on s'inspire de tout ce qu'on peut aussi voir ailleurs. Mais aujourd'hui, vous l'avez compris, on parlait de trains en sous-capacité. Voilà, si on avait plus de matériel à disposition immédiatement, ça serait peut-être plus facile. On ne l'a pas tout de suite, on va y venir tout à l'heure sur les commandes. Mais la priorité, en tout cas, de la région, c'est bien qu'il n'y ait plus de trains en sous-capacité d'emport. Et à date, voilà, on cherche les meilleurs compromis.
Merci. Encore une question, j'ai fait un bon
Moi, juste par rapport, en fait, au niveau de l'association, le train 63-42-69, on a mis en place un système, en fait, où la population distribue, en fait, un tract pour que les usagers, que ce soit en car ou en train, puissent remplir, en fait, les dysfonctionnements constatés et les problématiques rencontrées. Donc, en fait, on a mis ça en place et systématiquement, tous les mois, en fait, on envoie tous les problématiques qui ont été saisies par les usagers et on les envoie normalement. Alors, j'espère que vous les recevez au niveau de la région et je pense que SNCF également, vous devez normalement les recevoir. Je ne sais pas si vous recevez ça.
Moi, j'en ai pas connaissance, mais vous nous direz après à quelle adresse.
Voilà. Mais voilà, sachez qu'en fait, on a mis ça en place et c'est vrai qu'on commence à avoir des retours et voilà, c'est un outil qui est intéressant. Voilà. Alors, et le deuxième point que je voulais dire, c'était au niveau du recyclage. Quand vous dites, je suis assez étonnée qu'on entende qu'il y a une problématique de matériaux, que ce soit ballast et différents matériaux, je dirais, liés à l'infrastructure ferroviaire. Et le recyclage, en fait, est-ce que c'est quelque chose qui, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est envisagé par SNCF Réseau? Est-ce que c'est pratiqué dans d'autres régions? Je ne sais pas si au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est fait.
C'est quelque chose qui est pratiqué. Plus qu'envisagé, c'est pratiqué par SNCF Réseau. Après, c'est des solutions qu'on ne peut pas appliquer partout. Et puis, ça dépend des volumes disponibles aussi. Je vous confirme, c'est quelque chose qui est pratiqué. Si vous regardez le communiqué de presse quand on fait les travaux, on l'a.
D'accord. Alors, je vous dis, la ligne Clermont-Saint-Étienne, il y a moins tiers. Aujourd'hui, il y a des traverses qui sont parfaitement éteintes. Et si on part pour 10 ans de fermeture, allez, voilà, je ne sais pas, c'est une idée.
Merci pour ces échanges. Je vous propose de, l'horaire de passer à la deuxième partie sur le matériel et les installations de maintenance. Donc aujourd'hui, un petit récapitulatif des paiements réalisés par la région en 2023 qui nous explique un petit peu les montants importants sur le matériel et les installations de maintenance, autour de 170 millions d'euros. Dont à peu près 60 millions pour l'acquisition de nouvelles rames, à peu plus de 103 millions pour les rénovations et modernisations, et à peu près 6 millions pour les ateliers de maintenance et de usage, donc un budget conséquent pour les années 2023 et qui est en route. Grosse opération, on l'a vu, sur la 100 millions sur les rénovations. Sébastien en parlait aussi sur les gros programmes industriels qui sont amenés à immobiliser de matériel. Ce sont les rénovations IVI, ce qu'on appelle les rénovations IVI, donc les rames qui sont qui passent en grosse opération de maintenance au bout de 20 ans pour redonner 20 ans de potentiel. Donc aujourd'hui, on a à peu près un quart du parc qui passe en opération IVI, donc c'est 104 rames, 54 AGC, 54 RDZN. Et donc la région finance à 100% ce grand programme à hauteur de 413 millions d'euros. C'est très, très conséquent pour la région. Donc ça, c'est ce qui a été passé en une phase a été passée en tranche ferme, et puis là on est en train de lever des tranches optionnelles sur plusieurs années, puis c'est un programme très qui prend toute la décennie jusqu'à la fin de la décennie, et qui permet de moderniser encore une fois les rames. Donc aujourd'hui, 161 rames au total, si je vais laisser les objets, 204 rames qui étaient actualisées. Donc en synthèse, des opérations de maintenance lourdes qui visent à redonner potentiel. Un engagement vertueux sur la politique de développement durable, puisqu'on optimise les matériels existants ou les faire le plus possible. Le respect des exigences de sécurité en termes d'exploitation et un maintien des conditions de confort avec le renouvellement intégral des sièges. Donc c'est les premiers rames qui sont sortis des ateliers montrent que pour vos usagers, on a l'impression par contre que c'était un neuf parce qu'on a tout changé à l'intérieur, des sièges penchés. Et puis un calendrier prévisionnel qui s'étend sur 8 ans, je le disais, donc le consommateur de la décennie jusqu'en 2031. Quelques photos pour vous donner un petit peu l'illustration de ce que ça donne en sortie d'atelier, donc l'aménagement intérieur avec les sièges et les tablettes associées. Et puis aussi au niveau des espaces vélos, on essaie toujours des espaces vélos qui sont conservés pour mettre des vélos à bord, et puis certains qui permettent de mixer l'usage entre les personnes à l'emport et les passagers. Au-delà de ces rénovations IVI, les gros chantiers aussi qui concernent l'Auvergne, c'est l'acquisition de 3 rames de Géolis et de l'immeuble électrique hydrogène, avec une station d'avitaillement prévue pour l'hydrogène électrique à Clermont-Ferrand,
Donc là, on est sur un projet d'expérimentation commun avec plusieurs régions, c'est-à-dire donc aujourd'hui, la région Auvergne-Rhône-Alpes a investi 52 millions d'euros, donc 10 millions d'euros de financement de l'État, pour des livraisons des rames qui sont fléchées pour le premier semestre 2026, et ce qui permettra une mise en service commerciale prévue au second semestre 2026 sur l'axe Clermont-Milieu des Clermont. Alors ce projet, ça décide des investissements d'accompagnement, je le disais aussi, assez important, une extension de l'atelier de Clermont-Ferrand, une station d'avitaillement hydrogène sur le site du Nozay. Et la région est le maître d'ouvrage, elle a assisté du mouvement ingénieur passer le marché de conception-réalisation sur la station d'avitaillement, ce qui est assez nouveau pour nous. Donc la procédure est en cours, de que vous pouvez fournir les sécurités. Et puis la livraison est prévue de cette station d'avitaillement fin 2025, début 2026, pour assurer les essais des diagrammes qui seront venus début 2026. Donc voilà sur l'expérimentation qui permet vraiment un axe fort de verdissement et de décarbonation pour la région avec l'expérimentation envisagée en Auvergne. Et puis on a aussi l'expérimentation sur la donc atelier de maintenance, voilà quelques illustrations du futur atelier adjacent à l'atelier existant de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui la région a voté très récemment, puisque c'est date de décembre 2023, avec 52 millions d'euros la phase travaux de l'atelier, et accompagné en mars 2024 de la financement national. Donc c'est investissement conséquent qui va avoir lieu. Et puis aujourd'hui il y avait un financement complémentaire qui s'est engagé pour l'obligation de l'outil en 2025 pour que tout l'atelier soit vraiment opérationnel au premier trimestre 2026 avec la réalisation des rames électriques et hydrogène. Alors le programme de l'atelier, vous l'avez présenté l'année dernière, il faut savoir c'est l'atelier 3 boîtes. Et c'est vraiment un atelier très puissant pour la partie de la région. Avant de passer à la desserte au service annuel de 2025, je vous laisse peut-être poser des questions sur la partie matérielle et maintenance si vous en avez. Donc, s'il n'y a pas de questions, je propose tout de suite de passer à la partie A, une question.
Et donc, on a un problème quand même par rapport au 73-500. Est-ce qu'il y a programme de hausse de l'émission? Donc, est-ce qu'il y a des choses de prévues? C'est une problématique sur Montluçon, Vierzon-Bourges, où on peut mettre du matériel tout en 73-500, alors que c'est un trajet qui fait plus de 120 km et qui est aussi par rapport au port, n'est pas très efficient avec ce matériel. Alors que ce fait des régions, bon, alors c'est des régions, mais néanmoins, il y a certains trains sont gérés par la région Auvergne, Alpes, et d'autres par Saint-Val-de-Loire.
Très bien, merci. Alors pour les deux questions, la première sur les 73-500, donc les grosses opérations sur les 73-500 ont lieu ces dernières années, c'était les opérations qui ont été présentées récemment sur les opérations des postérieurs sur le métier qui ont été livrées postérieurement sur les 73-500. Les 73-500 ont fait des grosses opérations entre les années de 2021, ce qu'on appelle les ATP, pour redonner à 18 ans de potentiel sur les engins. Donc, vraiment, les 73-500 peuvent encore circuler encore plus d'une décennie. Donc, on est vraiment sur des matériels qui sont pleins dans le parc. Après, c'est aussi un remplacement, bien sûr, autant de plus pour leur succéder. Mais aujourd'hui, c'est l'objectif, c'est bien de garder ces engins, puisqu'on peut faire le gévalissement conséquent de la part de la région. Cette opération de maintenance. Et sur l'axe Bourges-Montluçon, effectivement, on a des échanges avec Saint-Val-de-Loire qui nous a proposé de procéder à en raison de la juridiction de la 73-500 pour des gestions de parc aussi au Centre-Val-de-Loire. C'est la juridiction de vraiment de parc vers le Centre-Val-de-Loire. Donc, nous, la marge de manœuvre pour la carte, même si c'est la Centre-Val-de-Loire qui circule notamment. Opposé dans le sens où c'est des rames qui sont bien